Cela fait quelques semaines que je vous apporte les prédications sur l'ADN de perspective, la vision de notre Église, de notre union d'Église. Je vous avais déjà partagé sur l'importance de devenir disciple du Christ. Et ensuite, je vous ai aussi partagé sur la générosité, la libéralité, parce que nous aimons le Seigneur. Et dans ce devenir de disciple, je vous ai aussi partagé l'importance d'aimer le Christ, puisqu'il est dit que je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour est nécessairement utile, et je dirais, est nécessaire, tout simplement, pour que nous puissions être des vrais disciples. Et là, ce matin, je vais vous partager justement sur ce sujet, l'amour de Dieu, l'amour du prochain surtout, à travers 1 Corinthiens 13, que vous connaissez bien, normalement. Oui ? Oui ? Oui. Mais est-ce qu'on le pratique ? C'est ça le problème, en fait. On le connaît bien, mais est-ce que je le pratique vraiment ? On va lire, on va lire tous ensemble, si c'est possible. Est-ce que c'est possible de lire tous ensemble ? On va lire. Hein. Donc, un peu lentement. On commence. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'emple point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne recherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle s'exauce tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et disparaîtra. Maintenant, dont ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Voilà jusqu'ici notre lecture. C'est bien de lire tous ensemble. Hein? Tout d'abord, oui, j'aimerais vous rappeler que ce texte a été écrit par Paul, l'apôtre Paul. Parfois, les gens trouvent que Paul est assez sévère, assez dur comme gars, comme apôtre. Et on voit bien qu'à travers cet chapitre, il est quelqu'un de beaucoup de douceur, mais aussi avec beaucoup de fermeté aussi. Alors, j'aimerais quand même vous parler des circonstances, des contextes de cette écriture. Vous savez que quand il a écrit le livre de Corinthiens, c'est parce que les Corinthiens avaient beaucoup de problèmes. Et ils avaient pas mal de soucis par rapport aussi au apostolat de Paul, et aussi par rapport au ministère de Paul, mais aussi par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas. Et apparemment, dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de dons spirituels. Mais il y avait beaucoup de désordres aussi spirituels. C'est pour ça que, pour limiter ces désordres, il a écrit donc 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Alors, en fait, dans le chapitre 12 et dans le chapitre 14, on voit Paul cite beaucoup sur les dons spirituels, comme par exemple le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de d'enseignement, etc. Mais il les renomme justement pour que ces Corinthiens puissent les utiliser avec justesse. Mais au milieu de tout ça, entre 12 et 14, tout à coup, il parle de l'amour. Hein, on parle de don de l'esprit, don de guérison, machin, 12, 14, tout à coup il parle de l'amour, mais on se dit, mais il a fait une erreur ou c'est un hors-sujet? Non, pas du tout, c'est pas un hors-sujet. Justement, on voit bien que l'amour, c'est le don par excellence de l'Esprit de Dieu. C'est la chose la plus importante qu'on devrait avoir, plus que tout autre don qu'on pourrait être inspiré. Je vous lis, je vous relis, donc tu laisses afficher, hein. Verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes, les langues des hommes, c'est comme si on parlait toutes sortes de langues. Imaginez, vous pouvez maîtriser l'anglais comme Léa maîtrise l'anglais. Ce serait super. Hein? Si vous pouviez maîtriser aussi le coréen, que je maîtrise. Vous pourriez aller en Corée et puis faire tout ce que vous voulez. Et voilà, maîtriser les langues. Enfin, ça s'est passé une fois. Une fois, Pierre, voilà, après la Pentecôte, il a prêché. Et puis, les gens ont entendu avec leur propre langue maternelle. Voilà. Même si vous pouvez prêcher que tout le monde peut comprendre, cela ne sert à rien sans l'amour. C'est ça ce qu'il veut dire. Même si vous pouvez parler les langues des hommes et aussi les langues des anges, c'est-à-dire que dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de gens qui parlaient en langue. Hein, on avait l'impression que, voilà, ces gens-là prenaient la parole, mais en langue, mais de manière incompréhensible. Et peut-être qu'il n'y avait pas de gens qui interprétaient. Et puis, ces gens qui parlaient en langue, ou priaient en langue, se sentaient spirituellement supérieurs par rapport aux autres. Même ils avaient tendance à mépriser les gens qui n'avaient pas reçu ce genre de don. Alors, Paul est en train de les reprendre en disant, même si tu parles en langue, d'accord, même si tu prophétises, ça ne sert à rien s'il n'y a pas l'amour. C'est ça en fait, ce que Paul est en train de dire. Il est dit que, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit, juste un son de cloche, c'est tout. Voilà. Si on n'a pas l'amour. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, voilà, le don de prophétie, comment on entend parler, comment on comprend le don de prophétie? Souvent on comprend comme si, voilà, il faut deviner ce qui va se passer dans l'avenir. Oui, certes, le Seigneur aussi peut nous révéler sa volonté de ce qui va arriver dans le futur. On appelle ça aussi une prophétie. Mais la prophétie est aussi, ce sont aussi des paroles qui édifient. Des paroles qui encouragent, des paroles qui exhortent, qui instruisent les personnes. Par exemple, ce que je suis en train de faire devant vous, c'est aussi une prophétie. Donc, au verset 2, même si j'ai le don de prophétie, même si voilà, j'apporte des paroles qui font du bien, si je n'ai pas l'amour, ça ne veut rien dire. Ça ne représente rien. Cette semaine, je viens d'apprendre que deux personnes que je connaissais très bien, que j'avais suivies, sont décédées. J'ai appris ça, on était en Alsace hier, et j'ai appris cela. Et c'est vrai que, imaginez, j'ai beau leur apporter des paroles de consolation, mais imaginez que je n'ai pas l'amour pour eux. Ces paroles de consolation ne peuvent rien, ne représentent rien. Et on a dit des belles paroles, mais ça ne veut rien dire s'il n'y a pas l'amour. Il est dit encore dans verset 2, quand j'aurai même la science de tous les mystères, imaginez que vous connaissez toutes choses, vous avez toute la connaissance de l'univers, de tout ce qui se passe, si vous n'avez pas l'amour, ça ne représente rien. Vous savez que Paul, l'apôtre Paul, était béni de Dieu, et que pendant sa formation, mais aussi pendant son ministère, Dieu lui avait révélé plein de choses. Et même, je dirais, même, il pouvait se vanter de toutes ces révélations secrètes reçues de la part de Dieu. Il avait reçu beaucoup de connaissances, mais lui-même, il savait que toutes ces expériences spirituelles, toutes ces révélations, les connaissances qu'il a pu recevoir de la part de Dieu, sans l'amour de Dieu, ça ne représente rien. C'est pour ça qu'il dit que Voilà, quand j'aurai le don de professer la science de tous les ministères, je ne suis rien sans l'amour. Et puis il est dit aussi que j'aurai même si j'ai toute la quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Voilà la foi. On pense que la foi est importante pour être sauvé, c'est vrai. La foi, c'est la croyance, c'est faire confiance à Dieu. Par la foi, même, on a vu Pierre marcher sur l'eau. Par la foi, on a vu beaucoup de gens guérir des malades. Mais la foi sans l'amour, c'est rien non plus. C'est rien non plus. Il est dit, voilà, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Voilà donc un sujet que nous avons traité la dernière fois, la générosité. Hein? On voit bien que nous pouvons être généreux par miséricorde, parce que Dieu nous a aimés et que nous devons aussi aimer mon prochain. On peut être généreux, mais si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour les autres, qui font beaucoup de dons. Voilà, je pense qu'on voit beaucoup de catastrophes naturelles dans le monde entier. Et par compassion, nous pouvons écrire envoyer nos chèques pour ce pays, pour pouvoir être redressé en tout cas. Mais cette générosité ne sert à rien si on n'a pas l'amour. Parce qu'on peut aider les gens pour être montré. Pour garder la face. Comme je suis riche, voilà, il faudrait peut-être faire un petit quelque chose, comme ça j'ai au moins ma conscience tranquille. Hein? C'est pas ça. Être généreux ou aider les gens, donner la nourriture aux pauvres, c'est pas ça. Il faut pratiquer cette générosité avec amour. Et il est dit même, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. C'est-à-dire que si vous pouvez vous pouvez mourir comme martyr pour quelqu'un d'autre, si vous n'avez pas l'amour, cet acte ne représente rien. On pourrait même, je donne pas mal d'exemples, on pourrait même créer des associations humanitaires, on pourrait même créer des associations pour les pauvres, on pourrait même, nous voyons aussi pas mal de gens qui participent pour la création des orphelinats dans des différents pays sous-développés, ou même terre à terre, à l'église ici, on peut aussi apporter des nourritures à la banque alimentaire pour que les gens démunis puissent se servir, ou des gens qui sont un peu en difficulté puissent se servir. Ça ne sert à rien. Si on n'a pas l'amour, si on ne le fait pas avec joie, si nous pratiquons tout cela sans l'amour, nous ne sommes rien. Quand bien même l'Église et le monde nous admirent pour nos actions, ça ne sert à rien. Ce n'est pas notre connaissance, ni le parler en langue qui détermine notre spiritualité ou notre générosité, mais l'amour, qui est le don par excellence, c'est ça qui détermine notre spiritualité. C'est l'amour qui est la chose la plus importante parmi tous ces dons spirituels. On a beaucoup parlé de l'amour. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? On a dit, oui, l'amour c'est important, l'amour important. Mais c'est quoi l'amour? Parce que dans le monde, quand on parle de l'amour, c'est quoi? L'amour... Non? Enfin, il y a pas mal de poèmes aussi où on idéalise un peu l'amour adultère. Vous avez déjà vu ça? Ou, l'amour connu lors d'une soirée avec un inconnu. Ça aussi, on peut appeler l'amour. Ou bien tout simplement des choses un peu plus terre à terre. J'aime le chocolat. J'aime ma femme. Est-ce que c'est la même chose, ça? J'aime faire du tennis, vous savez, j'aime beaucoup le tennis. Enfin, là, je vais bientôt reprendre. Ça fait 5 mois que j'ai arrêté et j'ai pris 5 kilos. Il faudrait que je reprenne le tennis. Voilà. Et bon, je peux reprendre, ça va. Enfin, bref, Est-ce que c'est pareil d'aimer le tennis et aimer ma femme? C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Donc, c'est tellement difficile de définir l'amour dans le monde actuel que, je dirais, on a utilisé le mot charité. Le mot charité, c'est un vieux mot venu du latin, hein, pour dire l'amour. Mais la charité aujourd'hui, ça ne veut rien dire, parce que c'est la charité, c'est quoi? C'est donner une pièce d'argent aux mendiants qui sont dans le besoin. C'est pas ça la charité aujourd'hui. C'est pour ça que quand je lis, souvent je transforme par l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? Où est l'amour? On peut crier, on peut chanter l'amour. On pourrait peut-être voir un personnage biblique, un docteur de la loi, qui dit, mais qu'est-ce que c'est que l'amour du prochain? Hein? Il demande à Jésus. Et qu'est-ce que dit Jésus? Il lui dit, d'abord il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter, pour avoir la vie éternelle? Alors Jésus lui dit, ce gars-là était un docteur de la loi, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est comme si c'était un théologien qui étudie la Bible, un docteur en théologie, voilà, qui est là et qui demande à Jésus, qu'est-ce que c'est pour avoir la vie, comment on peut faire pour avoir la vie éternelle? Et il dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Hein, voilà, toi qui es un docteur de la loi, toi qui connais bien la Bible, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Et là, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et là, Jésus lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Et là, il dit, mais il voulait un peu se justifier parce qu'il ne vit pas vraiment comme il vient de dire. Alors il dit, mais qui est mon prochain? C'est-à-dire, mais qui peut aimer? Hein? Qui dois-je aimer aussi? Et Jésus donc parle de cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Hein? Il dit que voilà, il dit une parabole en disant que cet homme-là, au milieu des brigands, tombe, on le dépouille, on le frappe, et là, il était presque demi-mort. Et puis, en voyant, donc c'était un juif, hein, après avoir sûrement fait le culte à Dieu à Jérusalem, là il est en train de repartir chez lui, et puis un sacrificateur, c'est-à-dire un pasteur, on peut dire comme ça, un pasteur qui par hasard descendait par le même chemin, et il le voit, et il passe autrement. Hein? Il l'ignore. Pourquoi il fait ça? Tout simplement, il peut trouver une excuse. Vous savez que à l'époque, un sacrificateur doit faire pas mal de sacrifices à Dieu. Et des gens qui sont surtout des gens de mauvaise vie, si on le touchait, il devient aussi impur. Donc, vu son état, il pensait qu'il était quelqu'un d'impur. Et puis un lévite, un serviteur de Dieu aussi, on pourrait dire un diacre, qui va là-bas, dans ce lieu, pareil, il lévite. Mais un samaritain, c'est quoi un samaritain pour les juifs? C'est un moins que rien. Un arabe? Non, c'est pire que ça. C'est pour eux, c'était un moins que rien. C'est encore pire qu'un des chiens. Comme des chiens, voilà, on les traitait comme des chiens. Et un samaritain qui était vraiment des gens impurs, il voyageait et il était ému de compassion quand il le voit complètement meurtri. Il s'approche, il bande ses plaies, il verse de l'huile, du vin, il lui met sur sa propre monture et puis il le conduit à un hôtel, il prend soin de lui. Et puis le lendemain, il donne de l'argent au propriétaire en disant que prends soin de lui et ce que tu dépenseras plus encore, je te rendrai à mon retour. Est-ce que vous avez déjà trouvé ce genre de personne? Il faut qu'on soit nous, cette personne-là. Hein? Et après avoir raconté cette histoire, Jésus lui dit, fais de même. fais de même. C'est ça, l'amour du prochain. On a souvent tendance à dire que, oui, j'aime les gens, j'aime ma famille, j'aime les personnes que j'aime, que je peux aimer. Mais des gens que j'ai du mal à, que j'ai pas, avec qui j'ai pas trop d'affinité, j'ai du mal à les aimer. Et d'ailleurs, même ma propre famille, j'ai du mal à aimer. N'est-ce pas? C'est aussi une vérité. Mais là, Jésus est en train de dire, c'est quoi l'amour du prochain? C'est l'amour du prochain, c'est pas seulement aimer ce qu'on peut aimer. L'amour du prochain, c'est l'étranger, c'est le blessé, les gens qui sont peut-être proches de toi, mais loin de toi, qui n'a un voisin avec qui peut-être on n'a jamais échangé de courtoisie, ou encore des personnes qui sont dans le besoin, dans les difficultés. À ce moment-là, oui. Est-ce que nous les aimons? Est-ce que nous les servons de toute notre âme? Parce qu'il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous prenons soin de mon prochain comme moi-même? Voilà. Je reviens à la lecture d'aujourd'hui, dans Corinthiens 13, verset 4. Il est dit que l'amour est patient. L'amour est patient. L'amour, oui, c'est d'avoir la patience. Souvent, on n'a pas la patience. Dieu était patient. Jésus était patient avec ses 12 disciples. Parce que les 12 disciples étaient un peu idiots, hein, parfois. Hein. Ils se comportaient comme les gens du monde et ils ne savaient pas vraiment réfléchir. C'est parce qu'ils n'avaient pas vraiment reçu aussi l'Esprit de Dieu à ce moment-là. Mais en tout cas, il était patient avec eux pendant 3 ans et demi. Et vous savez quoi? Il est patient, il reste patient avec moi. Pendant 49 années, il a été patient. Et il sera toujours patient même pour les prochaines années aussi. Et il est aussi patient avec vous. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, comme je suis patient avec toi, toi aussi tu devrais être patient avec ton prochain, avec ton voisin, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec ton collègue de travail. Sois patient, c'est ça l'amour du prochain. Parfois, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout va tellement vite qu'on n'a pas la patience. On a la culture de zapping, vous savez, il faut que ça passe vite. Hein. Même, on n'aime pas trop lire les livres, du coup, on lit le résumé du livre. Enfin, voilà, c'est incroyable. On veut que tout soit vite fait. Donc, on n'a pas la patience. Soyons patients. Parfois, il faut faire beaucoup d'efforts. Vous savez, je rencontre toutes sortes de personnes et il me faut la patience avec certaines personnes. Pas avec vous tous, mais avec certaines. Ça me demande beaucoup d'efforts. Mais voilà, le Seigneur me dit, voilà, sois patient, sois patient. Sois patient. L'amour est plein de bonté, plein de bonté. Autre traduction, serviable. Voilà, l'amour, ça agit. Il rend service en premier. Nous devons être vraiment au service des autres. Parfois, vous savez, pour être au service des autres, il faut aussi savoir voir le besoin. Ayons aussi un regard pour voir aussi le besoin des gens pour être serviable. L'amour n'est pas envieux. Voilà, quand les autres sont dans le bonheur de l'autre, dans le bonheur, l'amour, c'est de se réjouir avec eux, hein, avec ceux qui réjouissent. L'amour n'est pas être jaloux, hein, être jaloux. Mais pour que le Saint-Esprit ait une pleine liberté d'accomplir ses tâches, il est nécessaire aussi d'attaquer un peu le mal à sa racine, c'est-à-dire que pourquoi nous sommes si jaloux des autres? Peut-être parce que on est dans un complexe d'infériorité. Ça aussi, il faudrait voir. Est-ce que j'ai pas une mauvaise image de moi-même que j'ai facilement tendance à être jaloux de l'autre qui réussit. L'amour ne cherche pas à se valoir, à se faire valoir, ne se vante pas, il n'exagère pas de ses propres qualités. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Voilà, le Seigneur dit que l'amour, c'est être humble aussi. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu, vous savez. Si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu a été présent. Si vous êtes ce que vous êtes, parce que Dieu vous a façonné pendant des années. Il y a encore des choses à se façonner, à arrondir. Mais si vous êtes ce que vous êtes actuellement, c'est parce que Dieu a été présent. Et devant cette vérité, le Seigneur nous dit d'être humble. Dans Corinthiens 15, croire que nous sommes plus que ce que nous sommes, ou croire que nous sommes le produit de nos propres actions, est une erreur monumentale. Dans Corinthiens 1, il est dit que l'humilité, c'est mettre notre confiance à la bonne place, c'est-à-dire en Dieu. En Dieu. C'est l'humilité qui va nous faire regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Dans Philippiens 2, il est dit que ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Voilà, c'est important d'avoir cet esprit d'humilité pour servir les autres et pour aimer mon prochain. L'amour ne fait rien d'inconvenant, de malhonnête et de honteux. Il a du respect pour autrui. Avoir un grand respect aussi pour l'autre, c'est important. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Voilà, c'est comme le Seigneur Jésus. Il n'a pas cherché à son propre intérêt. Il est venu sur cette terre pour nous, en étant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Est-ce que nous pouvons aussi faire cela pour les autres? L'amour ne s'aigrit pas contre les autres, ne s'irrite pas, ne s'énerve pas. Hein, ça doit être, l'amour doit permettre d'avoir cette sérénité, cette paix intérieure pour ne pas s'énerver facilement. Voilà. L'amour ne traîne pas le mal. Selon les traductions, il ne tient pas compte du mal. Il ne ressasse pas des torts anciens. Il ne rêve pas de vengeance. Parfois, on aimerait se venger de certaines choses parce qu'il a fait une erreur, il a commis une erreur, mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour ne traîne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas des choses injustes. Non, on trouve la joie dans la vérité. On trouve... on n'accepte pas le mensonge, on n'accepte pas l'injustice, on prône la vérité, la justice. Et puis, en toutes circonstances, l'amour pardonne. Important de pardonner. Pour quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a subi une réelle injustice, devant ce genre de personnes, Jésus, à la croix, il a dit « Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». On a du mal à pardonner à mon prochain. Mais pourtant, le Seigneur nous demande de pardonner. Et même avec nos proches, on a du mal à pardonner. Dernièrement, je n'allais pas trop bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je n'étais pas en forme. Hein, parce que j'avais quelques conflits relationnels avec ma femme. Pendant 10 jours. C'est vrai qu'il faut apaiser la colère. Ouais. Et j'avais du mal. Hein. Et puis on ne se parlait pas. Et j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et je savais très bien à l'intérieur de moi qu'il fallait pardonner. Ou il faut demander pardon aussi pour ce que j'ai fait. Mais on avait du mal. Et heureusement qu'il y avait ce gène à l'intérieur, cette culpabilité qui entre. Tout cela, c'est Dieu qui travaille en fait. L'Esprit qui est en nous travaille en nous pour que nous puissions aussi aller dans ce sens de réconciliation. Et si vous êtes en ce moment en conflit avec quelqu'un et que Dieu travaille en vous, ça veut dire que vous avez une certaine gêne, vous avez la colère qui augmente, ou... Qu'est-ce que vous cultivez en ce moment, quoi? On peut, pourquoi ça a duré aussi longtemps? 10 jours, c'est long, quoi. Pourquoi aussi ça a duré aussi longtemps? Parce que j'ai cultivé ça. J'ai cultivé la colère, et je ne pouvais pas pardonner, ou je ne pouvais pas demander pardon. Et donc, c'est, voilà, c'est pas bien. Justement, mais le Seigneur dit, l'amour, c'est le pardon de l'autre. Pas forcément le pardon de... Vous savez que pour pouvoir pardonner, ça veut dire que c'est une personne que vous connaissez. Ça pourrait être une personne que vous, avec qui vous êtes proche. Souvent, c'est ça, en fait. On a pas mal de problèmes relationnels. Et tout cela, justement, il faut remettre au pied du Seigneur pour être dans la liberté, dans la paix. Et une fois que vous êtes passé par là, vous êtes léger. Enfin, je me sentais vraiment léger après ceci. Hein, et que dans la joie, hein, on ne peut pas exprimer cette joie. Et que vraiment le Seigneur aussi nous inspire pour que nous puissions avoir cette pratiquer cet amour du prochain. Verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Qu'est-ce que vous en pensez de... Voilà, l'amour est la plus importante. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre 13, 1 Corinthiens 13? Est-ce que cela vous a encouragé à progresser dans l'amour? Enfin, je l'espère. Hein. Il ne faut pas lire ce passage pour nous culpabiliser, mais pour être en état de marche et pour aller plus loin avec le Seigneur. C'est vrai qu'avec mes propres forces, on ne peut pas mettre en pratique toutes ces choses-là. Mais avec l'inspiration du Seigneur, avec l'aide du Seigneur, on peut le faire. Cet amour du prochain ne veut pas dire qu'accepter tout. Hein, il ne faut pas non plus tout accepter. Après, quelqu'un, souvent, enfin, à un moment donné, me disait, voilà, Jean, toi, t'es pas très indulgent, t'as pas l'amour du prochain, comment ça? Comment ça, j'ai pas l'amour du prochain? Et il disait, mais toi, tu es assez sévère avec des gens qui sont dans le péché. Hein? Et t'es contre l'homosexualité. Ben oui, je suis contre l'homosexualité, parce que la parole nous dit que, nous détermine que c'est un péché. Vous savez, il faut, je leur dis toujours, il faut différencier des choses. Il y a le péché, le pécheur. Bien sûr, il faut accueillir le pécheur, il faut l'aimer, il faut l'accompagner. Je peux dire que, enfin, mais il faut aussi savoir dire ce qui n'est pas juste. Jésus, par exemple, devant la femme adultère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a été indulgent, il avait beaucoup de compassion pour cette femme. Il a dit d'ailleurs, pour ceux qui voulaient jeter la pierre sur cette femme, il a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Après, il n'y avait personne. Du coup, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Voilà, il y avait la compassion de Jésus, mais il y avait aussi une certaine exigence et fermeté de la part de Dieu contre le péché. L'amour qu'on parle n'est pas l'amour tolérant, mais l'amour vérité, l'amour sainteté. Ah, mais bien sûr, c'est... Chacun de nous, nous devons apprendre de tout cela. Après, on a tendance aussi à vouloir enseigner ce genre de choses, mais avant d'enseigner ce genre de choses aux autres, soyez d'abord exigeants avec vous-même. Regardons-nous, nous, d'abord, au lieu de regarder l'apôtre qui est dans l'œil de l'autre. Hein? Voilà, ces dons, donc, accordés par l'Esprit pour l'Église, sont accordés de nos jours. L'amour par excellence. En pratiquant l'amour sur cette terre, on expérimente un peu l'avant-goût du ciel. Il est dit que l'amour durerait éternellement. Tout cesse, mais l'amour durerait éternellement. C'est comme si déjà on avait cet avant-goût du royaume de Dieu. Donc cultivons cet amour, pratiquons cet amour et tendons vers cet amour du prochain pour que le Seigneur aussi puisse en tout cas nous accompagner. Et voilà, pour cela, nous avons bien sûr besoin de l'aide du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et que cette semaine soit une semaine dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te confessons que nous sommes tous des pécheurs qui a besoin d'être pardonnés. Malgré nos péchés, tu nous as appelés, tu nous as pardonnés, tu t'es même sacrifié pour moi, pour nous, et maintenant tu demandes aussi d'aimer mon prochain. Seigneur, pour cela, nous avons besoin de beaucoup de qualités que nous avons décrites tout à l'heure, ici dans 1 Corinthiens 13. Et parfois, oui, moi-même, je te confesse que j'ai beaucoup de manquements et j'ai besoin d'être rempli par toi. Seigneur, sois avec nous et que cette parole, cet enseignement que nous avons entendu ne reste pas juste comme une connaissance, mais que cela puisse vraiment entrer dans nos cœurs pour mettre en pratique. Seigneur, oui, aide-nous vraiment à réfléchir de ce que nous devons faire cette semaine pour aimer mon prochain. Oui, c'est comme cet homme roué de coups, presque mort. Tu vois que tu as envoyé le Samaritain pour le sauver. Aide-nous aussi à être ce bon Samaritain qui a été utile dans les bons moments pour sauver son prochain. Seigneur, oui, aide-nous vraiment aussi à avoir un regard autour de nous, plus indulgent, compatissant, pour agir selon ta volonté. Nous te remercions pour ta présence, pour cet enseignement, pour ce que tu nous as parlé. Continue en tout cas à agir en nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.